Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
De choisir d'aimer la vérité. Si vous avez goût d'agir en fonction de quand vous apprenez une vérité, vous décidez, hey, moi, je veux obéir, je veux plaire à Dieu. Ça va être du bonbon pour votre âme. Si, par contre, vous voulez votre vie, si vous voulez choisir votre vie ou autre chose que Dieu, ce message va vous faire mal, mais il va vous faire du bien. Parce qu'il va nous recentrer sur la personne de Jésus-Christ puis sur le but pour lequel on est sur la terre. J'ai réfléchi sur l'Église, c'est le chapitre 3 d'un livre qui s'appelle Untamed, je vais vous le présenter tantôt l'auteur, j'en ai parlé la semaine passée, mais j'ai réfléchi sur l'Église et sur ce que Jésus attend de l'Église, et je m'intéresse dans cette série-là à qu'est-ce qui nuit à la formation de disciples dans l'Église moderne et dans le disciple moderne, vous et moi. Et donc, je retourne en arrière, je regarde ma conversion, je regarde mon implication dans l'Église, je regarde les cours bibliques que j'ai pris, je regarde diverses formations que j'ai données, le ministère que j'ai fait, les gens que j'ai rencontrés, les gens que j'ai vu venir à Jésus, ceux qui ont été plus loin, ceux qui ont débarqué, ceux qui ont sauté en bas du train, si on pourrait dire. Je regarde tout ça, je fais une rétrospective, je lis cet auteur-là qui semble avoir des choses similaires un peu à ce que j'ai vécu, je trouve ça intéressant. C'est plus un pasteur, il a été pasteur pendant 15 ans, je me rappelle plus dans quelle ville, aux États-Unis. Mais maintenant, c'est un missiologue, c'est un homme, Alan Hirsch. C'est un gars qui parle pas mal australien. Il est pas facile à entendre quand je l'écoute en conférence, quand j'étais allé à Toronto l'année passée. Mais c'est du bonbon pour l'âme, là, qu'est-ce qu'il apporte. Je partage pas toutes ses opinions, mais sérieux, il me fait réfléchir sur beaucoup de points, puis je suis vraiment content. Donc, aussi, c'est de revenir aux Évangiles parce que le fondateur de l'Église, Jésus-Christ, a donné des enseignements tout au long des Évangiles pour nous parler de cette période de l'ère de l'Église et de la Grande Tribulation qu'on appelle l'ère du mystère. C'est un message qui est critique envers l'Église moderne. Pas critique dans le sens « Hey, on chiole ça ensemble », mais critique dans le sens d'évaluation, un test à savoir si cette Église-là est-ce que Jésus se plaît, tu sais, dans l'Église qu'on est, dans l'Église moderne qu'on est? Parce qu'il y a des intentions, lui, quand il a dit « Je bâtirai mon Église », il y a une intention initiale, il y a un but final, il veut nous amener à quelque part avec cette Église-là. Et donc, il y a des constats qui sont difficiles, puis je réalise que j'ai pas de contrôle ben sur le christianisme dans le monde. Par contre, j'ai le contrôle sur ma vie. Puis, je peux avoir de l'impact sur des gens autour de moi. Pour être le disciple qui connaît bien, qui choisit ou qui est disposé correctement et qui agit comme un disciple. Donc, trois composantes qui vont être importantes qu'on va voir durant le message, mon intelligence, mes dispositions de cœur et mon obéissance. Qui a entendu parler du réveil des années 70? Vous êtes assez un vieux croyant que vous avez entendu parler d'un réveil dans les années 70, où les Québécois ont commencé à s'intéresser plus à l'Évangile. Non? OK, Juliane, toi, tu n'as entendu parler parce que tu es née dans les années fin 70, début 80? OK, c'est ça. Tu n'as entendu parler. Toi, André, tu n'as entendu parler aussi? Moi aussi, je n'ai entendu parler. Il paraît que, écoute, c'était la Révolution tranquille. C'était l'idée qu'on sortait de la grande noirceur, puis on rejetait en bloc toute l'autorité et ce qu'on nous avait obligé d'être dans une religion catholique, par exemple. On était comme un peuple qui était comme gardé, là. Puis à un moment donné, on a dit non, on a le droit à la libre pensée. Puis là, a sorti le féminisme, a sorti toutes sortes de mouvements, mais il y a cette idée que ben, peut-être qu'on peut aller voir ailleurs, peut-être qu'on peut réfléchir en dehors de la boîte, peut-être qu'on peut penser par nous-mêmes. Puis là, ben, les évangéliques avaient déjà semé des semences. Puis, il y a l'Institut, appelons Moody, qui est venu à la Terre des Hommes, à l'Expo 67, puis ils ont présenté des films sur écran géant, sur la création, sur le Dieu créateur, puis la Bible. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été exposés à l'Évangile. Puis, il y avait des études bibliques, là, ça courait les soirées, là, je veux dire. Tu te demandais, tu pouvais aller choisir quasiment là, où ce que tu voulais aller faire ton étude biblique. Moi, on me raconte qu'il y avait beaucoup de conversions. C'était facile d'amener quelqu'un à Jésus. Puis, en devenant un disciple, mon ami, il se mettait à lire sa Bible puis allait à l'église tout de suite. Tu sais. Bon, c'était un temps. On n'est pas dans ce temps-là présentement. Mais je me demande, est-ce que ça vous arrive des fois de questionner le temps dans lequel on vit, l'Église, les Églises, notre Église, les Églises dans le monde aujourd'hui, l'impact que l'Église a dans le monde aujourd'hui? Est-ce que vous posez des questions des fois sur le désir que notre Église ou vous-même avez de faire des disciples puis de voir une œuvre continuer? On en fait en passant. On fait des disciples. Malgré nous ou avec nous, on fait des disciples. C'est-à-dire qu'il y a des petits yeux qui nous regardent et sont en train de devenir un petit peu comme nous, nos enfants. On a une influence sur le monde, on est en train de faire des disciples. Moi, je rêve qu'avant que je meure, puis avant que Jésus revienne, j'aimerais ça voir une grande moisson. J'aimerais ça voir une multiplication. Et puis donc, c'est pas un message qui est pessimiste, c'est un message qui est une évaluation que vous avez à faire sur vous-même, qu'on a à faire sur l'Église. Et si vous voulez, comme je disais, être un disciple, vous flattez le bois dans le sens du bois. Et donc, va vous servir de boussole ou de couteau suisse. Il va y avoir assez de repères dans le message que vous pouvez revenir à ces grandes vérités-là puis rester sur la traque. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y aura-t-il encore la foi parmi les hommes? Jésus a dit aussi qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils sont le Messie et il va essayer de séduire les élus si c'était possible. Pourquoi dans la dernière génération, quand il y en a un qui va s'asseoir dans le temple de Jérusalem puis il va dire « Je suis Dieu », il y a même des élus qui vont penser, des croyants qui vont penser que c'est lui le Messie. Parce qu'ils ne connaissent pas leur Bible. Parce qu'ils n'ont pas étudié. Parce qu'ils n'ont pas une bonne connaissance. Ils n'ont pas bien connu. Et quand vient ces prophéties-là, crime, ils embarquent comme ça. Alors, on va parler de ça aujourd'hui, d'une boussole, d'un couteau suisse qui va vous servir de vraiment. Si par contre, je disais, vous suivez un autre but, ça va vous remettre en question, mais dans les deux cas, ça va être bénéfique. J'ai-tu prié? Seigneur, bénis ce message. Soit avec ma bouche, Seigneur Dieu, soit avec mon intelligence et mon cœur, Seigneur Dieu. Je te fais confiance, Père, que tu vas travailler dans nos cœurs et que la semence que tu as déjà déposée va continuer à porter du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Je commence directement avec une question. Si Dieu n'est pas le centre de notre foi, de notre vie et de notre identité, alors qu'est-ce qui est le centre? Si au centre de ma foi, de ma vie et de mon identité, ce n'est pas Dieu, c'est quoi? L'histoire, en refusant que Dieu soit le roi, le Père éternel, l'homme prend sa place comme Dieu et crée sa propre réalité. Vous serez comme des dieux. Ce n'est pas ça qu'on lit dès les premières pages de la Bible. Vous serez comme des dieux. Donc, une personne dont Dieu n'est pas le centre de sa foi, de sa vie et de son identité, d'autres choses vont venir le définir. Par exemple, on va souvent entendre dans le monde, il s'est fait une identité. Il a réussi, il s'est forgé une personnalité. En refusant que Dieu soit le roi et le Père éternel, l'homme prend sa place comme Dieu et crée sa propre réalité. Ça, c'est l'histoire de la chute du monde. Ça. Hier, je marchais à la Terre des Hommes, puis j'ai rencontré, on va dire que son nom, c'est Germaine. C'est pas Germaine, mais j'invente son nom. Par contre, tout le reste est vrai. On parle, puis là, à un moment donné, je dis, elle dit la vie. la vie, as-tu bien fait ça? T'sais? Je dis, non, c'est peut-être Dieu, tu sais. Puis peut-être qu'il vous connaît, puis tu sais, il vous a donné ce petit chien-là. On parlait de nos chiens. Là, je dis, moi, ma femme, elle avait prié pour avoir un cheval, pour avoir un Golden Retriever. Elle avait eu un Golden Retriever. Moi, j'avais prié pour un chat blanc. La semaine d'après, j'avais un chat blanc. Dieu répond à nos prières. Puis là, ma gars, elle dit, t'es-tu New Birth? T'es-tu New Birth ou Born Again? Je dis, oui. Elle fait, elle me tape dans la main. Mais là, plus qu'on parle, plus qu'elle est choquée après ce Dieu-là, qui ne répond pas à ses prières. Puis à la fin, tu sais, c'est comme, elle est choquée qu'il existe, mais il existe peut-être pas, puis c'est peut-être la vie. En fait, en refusant que Dieu soit le roi et le Père éternel, parce que peut-être je comprends pas qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, peut-être parce que j'ai des blessures, mais j'ai décidé, tu sais, gars, elle dit, moi, là, j'y parle plus. Elle dit, là, ça fait 15 ans, là, puis tu laisses pas traîner quelqu'un 15 ans de temps comme ça. Puis elle a pris sa place comme Dieu de sa propre vie, capitaine de son propre navire, et elle crée une nouvelle réalité. Dans le récit de la Genèse, l'homme se fait Dieu. Il a la possibilité d'être lui-même Dieu s'il mange d'un arbre qui lui produit une connaissance comme celle de Dieu, qui va pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et il réalise, en fait, qu'il est Dieu, mais il réalise aussi que dans son cœur, il a été fait pour aimer quelque chose qui est à l'extérieur de lui et plus grand que lui. Et donc, vous allez voir très tôt apparaître dans le livre d'Exode, le deuxième livre, des gens qui prennent des statues en or et disent « Voici Israël, celui qui t'a fait sortir de la mer Rouge. » Hein? Puis là, ils vont prendre des boucles d'oreilles, des bijoux, puis ils vont se faire un Dieu qu'ils peuvent voir, un Dieu qu'ils peuvent toucher. Et donc, l'homme sait qu'il n'est pas Dieu, il sait. Donc, il va se tourner vers quelque chose qui est plus grand que lui pour lui donner un sens à sa vie et à son identité. Et donc, on est appelé dans la Bible, tout homme, à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Et quand l'homme choisit autre chose, bien, c'est autre chose qu'il aime de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Un des écrivains les plus prolifiques anglais qui a marqué beaucoup le christianisme, qui encore est cité, là, je suis sûr, là, des milliers de fois dans des églises encore ce matin, parce que c'est un apologète et un défenseur de la foi. C.S. Lewis qui a écrit les Chroniques de Narnia, connaissez-vous? C'est un film en plusieurs séries. Là, il y a un lion là-dedans qui s'appelle Aslan. Puis, et il a passé l'Évangile au travers des contes pour enfants aussi. Hein, donc, c'est vraiment super qu'est-ce qu'il a fait. Je vais vous lire ici. Ce que Satan a mis dans la tête de nos ancêtres, c'est qu'ils pouvaient être comme Dieu et qu'ils pouvaient s'établir eux-mêmes comme s'ils étaient leur propre origine, leur propre maître, à inventer une forme de bonheur pour eux-mêmes sans Dieu. Dans cette tentative sans espoir surgit toute l'histoire humaine. L'argent, la pauvreté, les ambitions, les guerres, la prostitution, les classes, les empires, l'esclavage. La longue, terrible histoire de l'homme pour trouver quelque chose autre que Dieu qui puisse le rendre heureux. L'homme cherche à être heureux sans Dieu. Il se dit, si je fais la guerre à mon voisin, je vais avoir son territoire. Hein? Si je peux coucher avec cette prostituée-là, je vais avoir du plaisir. L'homme s'est détourné de son Dieu pour chercher ailleurs et ça fait ce qu'on connaît comme histoire de l'humanité. Si Dieu n'est pas le centre de notre foi, de notre vie, de notre identité, alors qu'est-ce qui est le centre? Et une autre question qui est similaire à celle-là, c'est pourquoi? Ou pour qui êtes-vous allé? Pourquoi ou pour qui êtes-vous allé? Certains vont dire, Dieu, moi c'est Dieu. Les djihadistes disent que c'est Dieu qu'ils servent. Un djihadiste qui entre dans une église au Moyen-Orient, plein d'explosifs, puis il se fait sauter, il est sûr, lui, là, qu'il a servi Dieu. Les chrétiens d'Europe, dans les inquisitions, on a dit, hey, Pierre, il est enterré à Rome, mais crime, il faut aller trouver son tombeau, coûte que coûte, puis il faut faire l'église là, parce que Jésus a dit que c'est sur Pierre que serait bâtie l'église. Fait que là, c'est qui est là? C'est des Juifs. On rase tout, mon ami. On viole, on tue, on fait n'importe quoi, mais il faut que le tombeau de Pierre soit en dessous de l'église catholique. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'inquisition. Quand je dis « on », c'est parce que ça représente le christianisme. Des gens qui servaient, qui étaient zélés Il était zélé pour une vérité qu'il pensait être Dieu. Plus près de nous aujourd'hui, des gens sont zélés pour la justice. En fait, ils ont perçu une injustice qui et ils vont diviser une église pour rectifier des torts. Je trouve, personnellement, que c'est la plus grande menace de l'Église moderne. Pourquoi? Ça me dérange pas que mon premier ministre, ça me dérange, mais mon premier ministre qui fume du pot puis qui encourage à fumer du pot, c'est plate. C'est vraiment dommage. Les toilettes que tu n'auras plus de gars puis de filles, tu vas avoir un autre genre. Mais ça, c'est un monde perdu. Mais dans l'Église moderne, c'est une Église perdue parce qu'elle se divise continuellement parce que les gens pensent servir Dieu, puis l'attaque vient même pas du dehors, elle vient du dedans, par des gens qui se croient en mission de sauver des gens d'une église et qui créent des divisions. D'ailleurs, l'auteur que j'étudie, je m'identifie un peu à lui parce qu'il raconte l'histoire d'un homme qui était un leader dans son église. En apparence, il avait une apparence soignée. Il s'impliquait auprès des pauvres, il est impliqué dans des divers ministères. À un moment donné, il a commencé à envoyer des lettres à divers membres de l'Église contre le leadership et principalement contre Al. Je pense que je l'ai à l'écran ici. Oui. Al Hirsch. Ah, j'ai pas écrit son nom. Un petit peu difficile à épeler aussi, là. H-I-R-S-H. R-S-C-H. Il écrit des lettres et puis là, il sème des pensées dans l'Église contre le leadership et spécialement le pasteur. Et on découvre qu'il couche avec plusieurs femmes, dont des femmes mariées de l'Église. Puis, il prend aussi des nouveaux dans l'Église, des gens qui sont mal affermis, des gens qui n'ont pas encore beaucoup de formation, puis joue dans leur tête, puis il brise leur capacité d'être des disciples. Alors, Al et son épouse, ils se rendent compte de ça, fait qu'ils le rencontrent. Ça dure quelques semaines, voire des mois où ils le rencontrent, puis ils disent « c'est quoi qui se passe? » Puis, à un moment donné, ils ont été obligés d'appeler la police pour le faire sortir, parce qu'il y avait des droits là, puis ces droits-là étaient violés. Fait que l'Église a demandé à les forces de l'ordre de le sortir. Alors, comme il ne pouvait plus rentrer dans l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des pancartes. Puis là, il accostait les gens, il se mettait à l'extérieur de l'Église pendant des mois, il se mettait dehors de même avec des pancartes pour que tout le monde qui voulait aller jaser avec lui puisse le faire, tu sais. Alors, le pasteur Hall, il dit, c'était une période difficile du ministère. Et l'essence du problème, il dit, c'est une vision tordue de Dieu. Et donc, c'est pas un manque de zèle, au contraire, le gars, il était zélé. Mais, c'est pour ça qu'il y a une formule mathématique ici. Le zèle sans, ça veut dire, c'est un signe en logique qui veut dire sans ou pas de connaissance, égale opposition. Cet homme, on a découvert que son père, après que tout soit arrivé, ils ont été voir un peu son histoire. Pour découvrir que son père était en Afrique puis divisait des églises. C'était ça son ministère, lui. C'était de rentrer dans les églises puis péter les églises. Puis là, qu'est-ce qui est devenu son fils? Il est devenu le disciple de son père parce qu'on fait des disciples qu'on le veuille ou pas. Mais ce gars-là avait aussi un zèle. Et il avait cette idée, j'ai besoin d'avoir de l'influence sur d'autres. C'était ça son idole. C'est ça qui lui donnait une identité. Que ce soit négatif, que ce soit positif, il avait besoin d'avoir une influence sur les autres. C'est pour ça que dans la Bible, il nous est dit d'attendre pour donner du leadership, que ce soit une personne qui est affermie et formée bibliquement, parce que le diable va venir le piéger dans l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? Le pouvoir donne un privilège, puis la personne va s'enorgueillir, comme qu'est-ce qui est arrivé au malin, qui disait, moi, c'est cette position-là que je veux. Puis ce gars-là voulait avoir justement plus d'autorité. Donc, grandir en nombre, comme on a vu dans la parabole du grain de moutarde, grandir en nombre trop rapidement, ça laisse la possibilité aux oiseaux du ciel de venir se percher sur les branches et de manger son fruit. Donc, grandir en nombre sans adresser le caractère, sans devenir un peu plus comme Jésus, c'est comme faire des photocopies d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie, Puis sur l'écran, sur la tu sais, souvent, moi, sur ma photocopieuse, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de photocopie, il y a des lignes sur toutes les photocopies. Parce qu'il y a une graine là dans l'écran, puis la feuille, elle fait juste passer devant, puis ça fait la graine, elle fait une ligne sur ma photocopieuse. Mais imaginez que je prends une photocopie, j'enlève l'original, je prends l'autre, je prends la photocopie, puis là, je prends l'autre, je prends toujours la copie de la copie. Si ma copie, au départ, n'est pas bonne, ou si ma vitre, elle est sale, ça va être encore pire. Jésus, il veut qu'on devienne des disciples et que notre caractère soit de plus en plus comme lui. Romains 8, 29. Il nous a choisis, quand on l'a accepté, il nous a placés dans le peuple choisi pour qu'on soit semblable à l'image de son Fils. Donc, la croissance, moi, la multiplication, elle m'intéresse, mais la multiplication selon notre espèce. C'est-à-dire, comme Jésus-Christ, il nous dit qu'il faut aimer le Seigneur avec notre tête, avec notre cœur, avec nos forces, puis il faut s'aimer les uns les autres, puis c'est ce genre de christianisme-là que Jésus-Christ va multiplier sur la terre. Donc, la croissance dans le caractère, c'est la clé pour la formation de disciples. Et on a besoin d'étudier un petit peu ces sujets-là. Pourquoi? Parce que si on parle sur la formation de disciples et où est-ce qu'on est rendu dans l'Église moderne, on a besoin de savoir qu'on n'est pas des gens qui mangent à un buffet juste pour aller chercher des connaissances ici et là, un peu partout, mais qu'il y a tout un tempérament, il y a un caractère qui doit être dirigé par le Saint-Esprit puis la parole de Dieu. Et parfois, il y a des gens qui se tiennent en retrait du corps de Christ. Ils ne sont pas impliqués nécessairement, puis à un moment donné, ils tombent en mission. Et là, ils sont animés d'un zèle, puis là, tout d'un coup, ça devient des gens là, enflammés pour une mission. Saul de Tarse en était un. Lui, il a vu le projet de l'Église comme étant un projet qu'il fallait détruire à tout prix. Et pour être admiré par ses pairs, il est parti avec son cheval, mon ami, puis il est allé chercher des lettres pour faire mettre des gens en prison et pour en faire. Il a signé son nom pour en faire tuer d'autres. Il était zélé, mais il dit, Dieu m'a donné sa miséricorde parce que j'agissais avec ignorance. C'était un zèle sans connaissance. Et lui-même, il dit de son peuple dans Romains 10, 1 et 3, « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle, mais sans connaissance. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils établissent leur propre justice. » Et donc, le problème, ce n'est pas qu'on n'est pas zélé, c'est qu'on a besoin d'avoir une connaissance meilleure de Dieu. Parce que si on est zélé, puis on ne connaît pas comme faux le caractère de Dieu, sa nature, ce qu'il veut faire, ça se peut que, pensant servir Dieu, comme un djihadiste ou un chrétien du Moyen-Orient, ou encore un membre qui veut rectifier absolument une injustice dans le corps de Christ, on peut être en train de s'opposer à ce que Dieu veut faire. Jacques, il dit qu'il y a des chercheurs de chicanes dans l'Église du premier siècle, il y avait ça. Dans Jacques, au chapitre 3, il dit, cette sagesse, en parlant de ceux qui créaient des disputes, qui se croyaient sages, il dit, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, ça veut dire, je ne suis pas, quand je suis avec toi comme ça, puis quand je suis dans ton dos, d'une autre manière. Exemple de duplicité, il n'y a pas de vie double. Je ne suis pas un gars qui ici prêche à l'air bien biblique, puis que dans ma vie, à la maison, je vis une autre vie. Duplicité veut dire double. D'hypocrisie, je suis la même personne. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Donc, il dit, une sagesse qui vient d'en haut, c'est ça que Jésus veut dans son Église, avec ses fruits et ses qualités-là. Donc, le caractère est important. Jacques 3, 15 à 18. Jésus parlait des pharisiens, puis il disait, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous courez la mer et la terre, vous y allez en bateau, tabarouette, puis vous vous faites du chemin, vous vous dépensez pour faire un prosélyte. » Un prosélyte, c'est un disciple des pharisiens. C'était quelqu'un qui s'intéressait à la religion juive, mais qui n'était pas nécessairement un juif. On l'appelait un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Donc, le zèle, ce n'est pas le problème. Le zèle, c'est le manque de connaissance, le problème. Donc, ce matin. Pourquoi j'apporte ces points-là? C'est parce que c'est impératif qu'on doit avoir une vision correcte de Dieu si on ne veut pas être en opposition avec ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alan Hirsch, il dit, c'est pas Dieu qu'on sert dans ce temps-là, c'est une image qu'on s'est faite de Dieu. Hein? Et donc, on pense qu'on est en train de servir Dieu, mais c'est une sorte d'idole, en fait. La question, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on a une vision correcte de Dieu? On va regarder ce qu'on a vu la semaine passée, le credo de Jésus. Les théologiens, beaucoup de théologiens appellent ça le credo de Jésus. Marc 12, 28 à 33. Voici le premier commandement. Ça, c'est la réponse de Jésus à un docteur de la loi qui dit, « Maître, c'est quoi le plus grand commandement? » Jésus va prendre Deutéronome chapitre 6 et va le citer, puis va ajouter quelque chose qui n'était pas dans Deutéronome 6, mais à quelque part, je pense, dans Lévitique par rapport à la calomnie qui était faite les uns envers les autres, puis tu ne voulais pas parler dans le dos de quelqu'un comme tu ne voulais pas qu'on te parle dans le dos. Ça ressemblait à ça ici. Jésus reprend ça et l'élargit au prochain. Il dit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Premier point. On voit à la prochaine étape. Dieu est un. Autrement dit, Dieu, il veut être le centre de ma vie, mon Dieu. Il veut que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon être, et de tout mon cœur et de toute mon âme et de toute ma pensée, de toute ma force. Deuxième étape, s'il vous plaît. Je vous laisse l'avancer. Je vais vous le dire. Merci. Yes. Donc, il veut aucun rival. Il veut qu'il n'y ait rien d'autre qui soit le centre de ma vie, de mon identité et de ma foi. Il veut que je l'aime avec mon intelligence, mes émotions et mes actions. Prochain. Et il veut que j'aime mon prochain comme moi-même. Exactement. Donc, premièrement, Dieu est unique et l'idolâtrie qui est au cœur de nos vies doit sortir. Si c'est faire de l'argent, si c'est être admiré par les gens, peu importe, Dieu il veut avoir le centre, il veut être l'unique, il ne veut pas que j'aie d'idole. Il veut que je l'aime avec mon... Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans mon message. Il veut, tu sais, le deuxième point, là, dit comme ça, ça a l'air facile, là, aimer Dieu avec l'intelligence, les émotions et les actions. Mais Dieu, il veut être aimé avec toute notre vie, c'est-à-dire notre sexualité, notre travail, notre argent, notre emploi du temps, nos loisirs, etc. Dieu veut parler sur chacun de ces points-là, puis il veut avoir une réponse de notre part quand on va avoir compris qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse avec toutes ces affaires-là. Troisièmement, la vraie spiritualité inclut l'amour de l'autre. L'homme moderne, il tente de réduire quoi? C'est ma relation avec Dieu. Ça, c'est ça, ma vie chrétienne. Non, ma vie chrétienne, c'est ma vie avec l'autre aussi. C'est la vie chrétienne dans une communauté chrétienne. Dans les 10 commandements qu'il avait donnés, il y en a 3 qui concernaient Dieu et l'idolâtrie pour être sûr que Dieu soit un puis qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant sa face. C'est 3 commandements qui touchent à la relation avec Dieu. Un qui me concerne moi. Dieu veut que je me repose à chaque semaine. Ça, c'était la loi de Moïse, mais c'est applicable dans le Nouveau Testament. Ces choses-là sont reprises dans le Nouveau. Mais ici, ce qu'on veut voir, c'est juste le cœur de Dieu quand il a donné la loi. 3 commandements dans la relation avec Dieu. 1 commandement qui touche à moi-même et mon repos. Et 6 autres commandements qui touchent au prochain. De ne pas convoiter la femme de mon prochain, de ne pas... les 6 autres commandements. Et donc... Jésus ici, lorsqu'il donne le premier commandement, il donne aussi l'autre ici, qui est d'aimer le prochain comme soi-même. Et donc, c'est très missionnel. C'est très Dieu et l'autre, moi ensuite. Dans la Bible, connaître Dieu, c'est pas juste prendre un cours biblique ou avoir lu 15 minutes dans ma Bible. Connaître Dieu dans la Bible, c'est le mot « yada » qui est utilisé. C'est plus que observer quelque chose qui est vrai, c'est d'entrer en contact avec cette vérité-là. Okay? Donc, on va parler de Je vais attendre un petit peu ici. Ah ouais. OK, donc on va commencer avec le domaine du cœur. Il y a trois domaines qui sont touchés par la connaissance Yada. OK? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Il y a les bonnes émotions ou les bons choix, la bonne connaissance puis les bonnes actions. C'est pour ça que c'est ça le titre de mon message. Premièrement, et ça, c'est seulement là que le chrétien connaît. Qu'il connaît comme Dieu veut qu'il connaisse. Et donc, qu'il applique sa foi. D'abord, le cœur ou les émotions ici. J'ai marqué ici des choix et les émotions. Pourquoi? Le cœur, dans la Bible, c'est beaucoup plus que juste l'organe qui palpite ou la chose qui nous fait ressentir. C'est la conscience de soi, la volonté, donc les choix, les sentiments et les émotions, si on pourrait dire, et les dispositions ou des sentiments réfléchis, des émotions réfléchies. C'est une... Tu sais, quand que tu... Tu as des dispositions intérieures. Tu sais, quand c'est écrit, ses entrailles furent émues au-dedans de lui. Les entrailles, c'est des dispositions intérieures. Dieu, là, il ne veut pas juste qu'on l'aime en pensant sur lui, mais il veut que ce soit choisi par son sujet. Et j'utilise le sujet parce que lui est le roi, là, mais il veut qu'on choisisse de comprendre, qu'on choisisse de l'aimer plus, donc on veut comprendre plus. Et donc, c'est très important. Dans 2 Timothée 3.1, il dit, « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, 2 Timothée 3.1, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimants, le plaisir plus que Dieu. » Qu'est-ce qui est au centre? D'autres choses que Dieu. Apprenant toujours, écoutez bien, verset 7, apprenant toujours, je le répète, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. La personne, elle apprend, mais dans son cœur, elle aime l'argent. Et Dieu dit, je m'excuse, mais tu n'as pas saisi la leçon sur l'argent encore, puis tu ne veux pas m'aimer dans ce domaine-là de ta vie. Tu es un amoureux de l'argent. C'est l'argent qui est au milieu, pas de connaissance de la vérité. Oui, Dieu est un Dieu gracieux, mais Dieu donne sa grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Donc, on doit comprendre dans ce passage-là que ce n'est pas en accumulant un bagage d'informations seulement, bien que ce soit très important, qu'une personne est un disciple de Jésus et qu'elle connaît Dieu, c'est qu'elle a une connaissance, mais elle veut aussi faire de bons choix en fonction de ce qu'elle entend. Elle entre en contact avec la vérité à ce moment-là. C'est quoi le problème? Dieu voit dans le cœur l'égoïsme, l'amour de l'argent, l'attitude envers les autorités, la façon de réagir envers un parent. Et il dit dans Romains 13, celui qui résiste à l'ordre établi, que ce soit un policier, un professeur, un pasteur ou un juge, résiste à l'autorité que Dieu a établie. De l'autre côté, ceux qui sont juges, policiers, professeurs, parents, pasteurs, s'ils maltraitent quelqu'un, ben ils ont des comptes à rendre à leur créateur aussi. Donc, Dieu regarde dans le cœur des gens et il trouve, par exemple, dans Matthieu 6, 24, que ce qui est le centre du cœur de la personne, c'est Mammon, le dieu de l'argent, qui a comparé à de l'idolâtrie. La conséquence, Dieu voit ça, la personne apprend, et n'arrive jamais à comprendre et à connaître comme un disciple pourrait comprendre. Et pour pouvoir rentrer en contact avec la vérité, il doit y ajouter son cœur. Il dit, oui, Seigneur, tu sais quoi, tu vas me parler, puis moi, je vais choisir d'y obéir. Je vais choisir d'aimer ce que tu me dis. Je vais choisir toi contre moi. Si toi puis moi, on est un contre l'autre, je vais prendre la position de Dieu contre moi-même. Et c'est là qu'on va reconnaître le disciple. Le disciple, c'est celui qui prend la partie de Dieu contre lui-même quand il y a une compétition entre lui et son Créateur. Il fait cesser l'hostilité au moment de la repentance, quand ils se mettent d'accord avec Dieu, au lieu de faire un... Mais l'homme, on va le voir peut-être plus dans mon message la semaine prochaine, l'homme agit en dissonance cognitive. Puis la dissonance cognitive, c'est « voici quelque chose qui est contraire à ce que je pense, changeons la définition de la chose pour que je me sente bien avec moi-même. » Et donc, l'homme, au lieu de se dire « tu sais quoi, je devrais me lever, moi, puis agir dans cette situation-là, je devrais choisir la partie de Dieu contre moi-même, qu'est-ce qu'il fait? » Il choisit de changer la définition. Ça, c'est comme le gars qui s'achète un beau char, tu sais, puis qui a payé cher, tu sais. Mais il fait de la longue route. Puis quand il l'a essayé, il a fait juste 3 km avec, puis il a dit, c'est cool ce char-là. Puis là, il s'en va dans son char, puis là, il faut qu'il aille à Montréal ou à Québec, puis là, il y a des maux d'eau, tu sais. Fait que là, à chaque fois qu'il pense à ce désavantage-là, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ben au moins, tu sais, il est beau en crime. Il rajoute des informations positives de plus. Pourquoi se convaincre qu'il n'a pas fait la mauvaise affaire? Jésus a dit, ils ne viennent pas à la lumière parce que leurs œuvres sont ténébreuses. Hein? Le problème de notre cœur idolâtre, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui nous met dans les ténèbres, puis puisqu'on ne veut pas être mis en lumière, on ne vient pas à la lumière. Donc ça, ici, c'est important qu'on comprenne que notre cœur désirait être mis en lumière, désirait être transparent devant Dieu et se laisser parler sur tous les sujets que Dieu voudrait me parler. Je vais grandir dans la vérité. Je vais rentrer en contact avec la vérité parce que je vais y ajouter mon cœur et mon obéissance. Dans le Nouveau Testament, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il n'a rien à dire. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 16, 22, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réduit au silence. Mais on ne peut pas aller fermer les volumes des gens. On ne peut pas faire ça. Mais on peut le fermer ici. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, si son fruit, c'est complètement n'importe quoi, puis la personne, elle n'aime pas le Seigneur, ben crème, baissez le volume. Baissons le volume. N'ajoutons pas foi. Et les gens vont croire, dans la dernière génération, ils vont croire que l'Antéchrist, c'est le Messie. Pourquoi ils vont croire ça facilement? Parce qu'ils croient n'importe quoi. On ne doit pas croire n'importe quoi, on doit avoir de la connaissance. Faire des choix. Un grand revivaliste qui a prêché, Jonathan Edwards, a prêché dans les années 1700. Il y a des prédicateurs à chevaux qui se promenaient au travers les États-Unis, puis il y avait des grands réveils aussi dans ces temps-là. Et Jonathan Edwards, qui a prêché un message pécheur dans les mains d'un Dieu en colère, il disait comme ça, « Dieu vous tient dans un fil d'araignée au-dessus de sa flamme éternelle. » Puis il dit, savez-vous qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore dans le feu de l'enfer? C'est sa miséricorde et son grand amour pour vous, mais ne tardez pas. Il y a des gens qui sortaient dehors, ils prêchaient en plein air, ils montaient dans les arbres parce qu'ils avaient peur que la terre s'ouvre comme avec Corée puis qu'il les dévore vivants comme ça. C'est un gars qui prêchait, puis il y avait des convictions. Mais c'est sûr que dans ce temps-là, on avait toute la prédisposition que Dieu existait. Fait que déjà, il y avait quelque chose dans leur conscience avec lequel Dieu travaillait. Mais Jonathan Edwards a dit ceci. Je crois que personne ne change, soit par la doctrine, soit par l'écoute d'un message ou par l'enseignement d'un autre, à moins que les affections spirituelles ne soient émues par ces choses. En un mot, il n'y a jamais un grand accomplissement par les choses de la religion sans que le cœur ne soit interpellé par ces choses. Et la vraie religion trouve sa place dans les affections. Dans 1 Thessaloniciens, je pense au chapitre 4 ou au chapitre 5, il dit que l'avènement du Fils de la perdition, qui est l'Antéchrist, c'est écrit que ça va se faire avec beaucoup de miracles et tout ça, et c'est écrit que les hommes vont y croire. Pourquoi? Car ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dans la dernière génération, quand cet Antéchrist-là va venir, les gens vont... Quand c'était le temps, avant que lui vienne, quand c'était le temps d'aimer la vérité pour qu'elle nous mette en lumière, ils l'ont rejeté. Puis là, quand lui va arriver avec la puissance de faire des miracles, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est écrit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça se passe au niveau des affections spirituelles. Aujourd'hui, il ne se passera rien si je veux qu'il n'y ait rien qui se passe. Je vais entendre un autre message, mais je n'arriverai pas à la connaissance de la vérité. C'est aujourd'hui, il va se passer quelque chose si je veux aimer mon Dieu, si je veux obéir à mon Dieu, si je veux grandir dans la connaissance de mon Dieu. Mais si je ne veux pas, Dieu n'est pas dupe. Il garde ça. Il garde ça. Donc, il n'y a rien qui se passe. Puis, on va chanter à la fin comme une biche soupire après des eaux paisibles. Mon âme a soif de toi. Dieu cherche en nous le choix. C'est pour ça que le cœur, là, c'est le choix puis les émotions réfléchies. C'est quelque chose qui est qu'on peut faire, que Dieu nous a donné. C'est de choisir, OK, je fais le choix. Tiens, je choisis, moi, que je vais avoir le goût. Tiens, je choisis que je vais avoir le goût d'obéir à ce que Dieu va me montrer dans les domaines de ma vie. Ça commence comment? Ça commence avec un bon bagage intellectuel. J'en reviens là-dessus. Des bonnes idées sur qui est Dieu. On a vu que le gars qui avait divisé l'Église parce qu'il voulait être un leader, puis que dans le fond, il voulait avoir de l'impact sur les gens. Son père avait divisé des églises en Afrique. On a vu qu'il avait un zèle, mais il avait une vision tordue de Dieu. Une bonne vision de Dieu pour être sûr qu'on n'est pas en train de s'opposer à Dieu parce qu'on veut l'aimer avec nos pensées. Mais commencer, ça implique aussi le choix de l'aimer et de l'obéir. Et là, j'embarque dans un autre, ici, des bonnes actions. Des bonnes actions. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Donc, il y a cette idée que Dieu va me parler sur ma sexualité, sur l'argent, sur la réconciliation envers quelqu'un, et je peux être comme ça. Oui, je peux négocier avec Dieu, je peux avoir de la difficulté avec ce sujet-là, mais éventuellement, sais-tu quoi? J'aime Dieu, puis j'ai décidé que je voulais le connaître, et donc rentrer en connaissance de la vérité, yada, ça veut dire aussi que je dois faire les actions qui suivent ma croyance. Jacques, il dit, tu veux me montrer, toi, tes œuvres, ta foi sans les œuvres? Viens et je te montrerai les œuvres de ma foi. On est sauvé par la foi seulement, mais la foi qui me sauve ne vient pas seule. Elle vient aussi avec les fruits de ce que je deviens un disciple de plus en plus. Et donc, on va voir, montre-moi ton obéissance, je vais te montrer ta foi. Donc, le test de l'obéissance du disciple, c'est la manière de vivre notre foi. Tu sais, dans Matthieu, quand il nous dit « Allez et faites des disciples », il ne nous dit pas juste « Enseignez-leur », il dit « Enseignez-leur à obéir à ce que je vous ai prescrit ». Donc, on a à apprendre, pas des définitions, mais à une manière de vivre aussi. 30% ou le tiers de la Bible, c'est de l'éthique, c'est de la manière de marcher, quand même. C'est des choses à faire. Il nous dit qu'il faut apprendre à lui obéir. Et c'est là qu'on arrive à cette connaissance-là. On a une bonne connaissance de ce que Dieu veut, de ce que Dieu pense. On désire en apprendre plus pour connaître ce Dieu-là, mais aussi pour aller en action, pour obéir à ce qu'on a appris. Vous enlevez la connaissance. À la connaissance, vous gardez, mettons, juste la connaissance, puis vous enlevez les bonnes actions. Vous enlevez aussi les bons choix et émotions. Vous êtes obligé d'enlever aussi la foi. Je répète. Vous gardez la connaissance, vous enlevez les bonnes actions ou les bonnes émotions qui vous mènent à faire des bonnes actions qui sont en conformité avec ce que vous savez de votre Dieu. Et donc, vous ne marchez plus dans un amour pour Dieu, donc dans une confiance, et donc il n'y a plus de foi. Et donc, c'est pour ça que ma petite... ma flèche qui disparaît. Pensez à des gens qui vous ont touché parce qu'ils avaient une grande foi. Quand vous lisez Hébreux 11, il y a eu la foi parce que quoi? Parce qu'il n'a pas eu peur de donner son fils. Il y a eu la foi pourquoi? Parce qu'il a quitté pour un pays qu'il ne connaissait pas. Il y a eu la foi pourquoi? Il marchait ferme comme voyant celui qui est invisible. Il y a eu la foi pourquoi? Parce qu'il s'est laissé scier en deux à cause de sa foi. Il y a eu la foi pourquoi? Et qu'est-ce qu'on découvre dans Hébreux 11? On découvre que les gens qui ont la foi, ce sont des gens qui ont fait du bien autour d'eux, qui ont marché et qui ont eu un impact dans leur monde. Je ne dis pas que vous devez aller vous faire scier ou de quitter pour un pays que vous ne connaissez pas. Je vous dis, pensez à des gens comme Billy Graham, par exemple, qui, moi, j'y dois l'assurance de mon salut. Non pas que c'est lui qui me l'a donné, mais il était l'outil. En fait, c'est la croisade que Linton Ford a faite en 90. Écoute, Je suis éternellement reconnaissant pour ce ministère-là, à cause que j'ai reçu la certitude de mon salut. Corrie ten Boom, qui, à Ravensbrook, cachait des Juifs sous la table de sa cuisine, et qui ont fait un double mur dans la maison, puis ils ont caché des Juifs, puis eux autres, ils réparaient des montres, puis ils avaient tout monté un système que... T'as-tu une montre à faire? Oui, j'ai une montre. Ah oui, es-tu vieille? Ah, oh, à peu près 7 ans. Ah, ouais. Bon, ben parfait, je vais vous la réparer. Parce que toutes les lignes étaient tapées, tout était suivi, hein. Et puis, à un moment donné, on a soupçonné qu'ils cachaient des Juifs, puis... Finalement, ils sont allés dans un camp de concentration à cause de ça. Des gens qui ont eu un impact. Gladys Elwood, la femme aux petits pieds, cette femme-là a dit, « Oh Dieu, voici ma Bible, voici mon argent, me voici, utilise-moi. » C'est une femme de ménage en Angleterre. Puis, elle est allée voir au train comment ça coûtait pour un billet de train pour aller en Chine, tu sais. Puis, elle a dit, « Je peux-tu vous amener mon argent chaque semaine? » Puis, quand elle a eu assez d'argent, elle est partie avec sa Bible. Puis, son argent... Puis le train, ben, il s'est arrêté parce que c'était la guerre entre des pays quelconques. Là. Fait qu'elle a pris ses valises, puis elle a continué à marcher sur la rail jusqu'à temps qu'elle tombe sans connaissance dans la neige. Les balles passent au-dessus de sa tête. Puis elle s'est réveillée à quelque part, puis à un moment donné, ils ont dit « T'es pas une missionnaire, t'es une communiste. » Ils ont changé son passeport, elle était faite bien dure. Puis là, à un moment donné, il y a un gars avec une barbe blanche qui est arrivé, puis elle a dit « Demain, il y a un navire qui part pour la Chine. » Viens sur le bord du quai, puis dès que tu vas sauter dans le bateau, tu vas être en territoire chinois. Elle a embarqué sur ce bateau-là, elle s'est rendue en Chine, puis elle a dit, ben là, Astaire, Seigneur, je fais quoi, tu sais? Puis elle a sauvé, là, elle a vu que les enfants, les Chinois, ils aimaient ça, des enfants avec des petits pieds, puis qu'ils pouvaient vendre les enfants en prostitution pour des mariages infantiles. Ils donnaient ça, eux autres, tu sais, dans le fond, ils élevaient des enfants, puis ils sortaient de la pauvreté en vendant leurs enfants qui avaient des petits pieds. Fait qu'ils se trappaient les pieds des bébés pour les empêcher de grandir. Puis elle, quand elle a vu ça, elle voyait elle les achetait, ces enfants-là. Elle trouvait une manière de sauver cet enfant-là. Puis elle débandait leurs pieds. Puis elle avait entendu dire que quand l'empereur se présente chez toi, t'es mieux de te présenter droit parce que ça se peut que c'est pour couper ta tête qui vient te visiter. Puis l'empereur est rentré chez eux. Puis elle dit, écoute... J'ai su que tu aidais nos enfants, le marché noir d'enfants. Tu aidais à les enfants à sortir. Fait qu'il dit, je te donne 2 soldats. Fais le tour de la Chine. Tu étais payé pour annoncer l'Évangile. C'est merveilleux. Et tu dis, wow! Tu sais, Sarah, ce qu'elle disait à l'offrande, on peut tout faire quelque chose pour notre Dieu. On peut tout faire quelque chose, chacun, tu sais. On ne peut peut-être pas tout donner quelques milliers de dollars, comme on a vu le mois passé, c'est glorieux. C'est ce que vous avez fait, c'est merveilleux. On peut tout faire quelque chose. Et donc, ça dépend de c'est quoi qui est le centre de notre vie, tu sais. Si c'est autre chose que Dieu, il n'y a rien qui se passe. Billy Graham, Corrie ten Boom, Gladys Elwood, elles avaient plus qu'une dévotion correcte envers Dieu ou une doctrine qui était correcte. Ils avaient une foi qui voulait faire une différence dans le monde. Revoyons notre équation du départ. On a du zèle sans une connaissance. On va être zélé pour quelque chose dans la vie, mais on va peut-être s'opposer à ce que Dieu voudrait faire dans notre vie. Mais voyons une nouvelle équation. Ayons du zèle dans notre obéissance, dans notre amour pour Dieu, et ayons la connaissance, aimons Dieu avec toute notre pensée, et qu'est-ce que ça va faire? ça va faire un schéma. Schéma, c'est le mot pour écoute au Israël dans l'hébreu. Écoute au Israël, Dieu est un. Hein? Ce que Jésus a utilisé. Donc, tout ça ici, Dieu nous donne un cadre pour ça et il appelle ça l'Église. Ça doit être fait en communauté. C'est pour ça aussi qu'il amène, oui, l'amour de l'autre dans le sens où on va aller par tout le monde puis on va faire des disciples, mais on va le vivre en tant qu'Église, ça. Vous savez, dans une Église, il y a cette bonne connaissance-là, ces bonnes actions-là et le choix de bonnes émotions va se vivre dans le cœur d'une Église parce qu'il y a des gens, excusez pour la faute, il y a des serviteurs. Il y a des serviteurs dans une église, il y a des théologiens et il y a des pasteurs et différents dons dans le corps de Christ, mais c'est quand même les principaux dons. Je pense que je regroupe tout en ça. Oui, selon Éphésiens 4. Donc, on a ici des gens qui sont concentrés à faire des choses pour le Seigneur. Gloire à Dieu! On a aussi les théologiens qu'eux autres se concentrent à enseigner correctement. Gloire à Dieu. Mais eux autres, les théologiens ont besoin des serviteurs pour apprendre à servir. Puis, les pasteurs sont plus des soigneurs ou des gens qui vont se concentrer sur le cœur de la personne. Puis, ils vont soigner, prendre soin. Et eux autres aussi ont besoin de la théologien. Et le théologien a besoin du don du pasteur. On a besoin, comme ça, de se retrouver ensemble puis de... Sinon, on va partir, si on fait les choses séparées du corps de Christ, on va avoir vraiment une problématique d'équilibre. Parce que Dieu a donné les dons pour le perfectionnement de chacun. Et donc, c'est pour ça qu'on continue toujours dans une église locale. Toujours, toujours, vous avez besoin, j'en ai besoin. Et Jésus dit que c'est les disciples vont être reconnus à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et ça parle d'abord des disciples dans une église locale. Si on dit que la connaissance biblique n'est pas suffisante, mais juste des choix, puis des émotions, puis des actions, bien, à un moment donné, vous allez prendre votre pensée pour la pensée de Dieu. On va commencer à être une église un peu flyée. « Hey, Dieu m'a dit ça. Ah oui, Dieu m'a dit ça. » Tu sais, moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit que Dieu avait dit de lâcher sa femme, tu sais, puis elle était fidèle. C'est sûr que c'est Dieu qui dit ça, tu sais. Fait qu'une vie chrétienne dans le zèle, sans connaissance, c'est une vie qui va aussi se heurter. Donc, on a besoin de discernement, on a besoin de toute notre aide, on a besoin d'être au collège biblique, on a besoin d'être formé, on a besoin de réfléchir pour que notre expérience, notre amour pour Dieu soit aussi dans le cadre de ce que Dieu a dit aussi. Pour que mon cœur ne me trompe pas, parce que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il va faire à croire que c'est Dieu. T'sais. À la fin du chapitre que je lisais sur justement avoir une vision correcte de Dieu. Alan, il regarde ses 15 ans de ministère dans l'Église et il dit qu'il s'est senti privilégié d'être pasteur, mais il dit que ça lui a brisé le cœur de voir combien de gens ont abandonné et laissé la voie du disciple. Je ne vais pas nommer de nom au cas où quelqu'un nous écouterait sur Internet, mais il y a quelqu'un ici dans l'Église qui disait « Je regarde tous les jeunes qui ont grandi dans l'Église avec moi, puis j'en vois presque pas un dans les Églises. » Presque pas un dans les Églises. Et donc, il dit « Je m'identifie dans le fond à la parabole du semeur. » Puis d'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Aïe, c'est drôle parce que moi, c'est dans ce sujet-là que je suis en train d'étudier parce qu'on a étudié parabole, puis c'est Jésus nous a expliqué comment ça serait dans le temps de l'Église. Il y en a juste un sur quatre. Un sur quatre qui porte du fruit. Donc, il s'est dit « Ok, c'est quand même ça la parabole du semeur. C'est pas tout le monde qui va produire un fruit qui va être mené à la maturité. » Là, pour le bien de la cause, je l'ai écrit en anglais, je l'ai mis en anglais, puis je vais vous le traduire. Il dit, beaucoup de ses amis ont redéfini c'est quoi être un disciple pour pouvoir continuer leur style de vie. D'autres ont recadré Dieu d'une autre manière. D'autres encore ont fait fausse route par rapport à la foi, ont débarqué complètement de la foi. Et il dit, en faisant ça, ils ont vendu, et j'ai dit, quelqu'un m'a dit que j'ai dit toujours que l'oiseau vendait ses ailes. pour un ver. Mais c'est pas ses ailes, c'est ses plumes, parce qu'il aurait juste donné un aile, puis après ça, un autre aile, puis après ça, ce ne serait pas envolé. Donc, la semaine passée, si vous étiez là, si vous n'étiez pas là, il y a une alouette qui a vu un marchand de verre, puis le marchand de verre, c'était le diable, elle ne le savait pas, et le diable, il dit « un verre ou deux verres pour une plume ». Et puis, l'oiseau a commencé à échanger comme ça des plumes pour réaliser qu'elle avait de la misère à s'envoler, puis que son embonpoint, à cause du lunch qu'elle mangeait, faisait qu'elle a fini par rester à terre. Puis là, le diable ou le marchand de verre l'a mis dans une cage et il l'a emporté. Là, il s'est fait maître de sa volonté. Et c'est comme ça qu'il dit que certains de ses amis ont tombé dans le fossé, si on peut dire, de la foi, parce qu'ils ont vendu leurs plumes aux marchands de verre. Et ils ont perdu leur capacité de voler ou d'être un disciple. Et donc, je termine avec ça ici. C'est ce qu'on a vu, c'est le schéma, c'est écoute, ô Israël. Dieu est un. Donc, dans notre vie, Dieu veut être le centre de ma foi, de ma vie et de mon identité. Deuxièmement, Dieu veut être connu intellectuellement. Il veut être choisi et il veut aimer être obéi. Il veut qu'on aime l'obéir. Et la connaissance, finalement, passe au travers d'une communauté de croyants. Ça se passe, ça se cadre, mais ça ne se limite pas à une communauté de croyants, mais ça commence et ça se vit dans une communauté de croyants. Et donc, j'ai trouvé que le chant aujourd'hui que Julien avait mis comme une biche soupire après des courants d'eau. D'habitude, j'aime ça finir avec un chant plus yeah, c'est fini, puis là, on s'en va dîner ensemble, puis on est encouragé par le message. Mais je trouve que le message aujourd'hui nous amène à. On a fait un voyage à l'intérieur, on est allé voir nos cœurs, on a besoin de choisir de désirer les choses de Dieu. On va finir avec ça. Je remets ça au Seigneur, puis ensuite, on chante ce chant-là. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce résumé de la loi et des prophètes que tu as donné lorsque tu as dit ce verset dans Marc, d'aimer notre Dieu, le seul, l'unique, d'être l'unique pour nous autres, de t'aimer avec nos pensées, de t'aimer avec notre cœur, avec nos dispositions de vouloir t'obéir, de vouloir acheter ta vérité quand que ça vient contraire à la nôtre. Puis, Seigneur, de vouloir obéir et marcher dans ce que tu nous as montré. Et c'est là qu'on va arriver à cette vérité qui va nous affranchir, qui va nous rendre libres. Seigneur, tu nous as aussi donné la possibilité d'être en communion les uns avec les autres. Et tu dis par l'apôtre Jean que celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres et il n'est pas en communion avec le reste de l'Église. Et donc, tu veux pour nous qu'on vive dans la communion avec l'Église. Je te prie, Seigneur, que ce que tu as commencé en nous, tu continues de le faire. Peut-être ce matin, vous avez entendu des vérités qui vous ont donné peut-être des lunettes sur faire des disciples en 2018. Peut-être vous a donné un canif avec plusieurs outils après, un couteau suisse ou une boussole avec des repères. Gardez-les précieusement et que Dieu vous donne la grâce de garder le test du disciple pas loin de vous. Là. Amen. On chante ensemble.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.